Maire de France, bonjour. Nos communes ont la parole sur Radio Territoria, présenté par Christophe Bordet.
Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Maire de France, bonjour. La seule émission qui donne la parole à ces faiseux que l'on n'entend jamais ou pas assez, les maires de nos communes, les maires de nos petites villes et leurs habitants. Alors on va largement parler aujourd'hui des jeunes de ces communes qui ont souvent l'impression de compter pour du beurre, d'être éloignés de tout, d'être peu considérés. Et la crise sanitaire a souvent aggravé leur situation d'ailleurs, difficulté de faire des études dans de bonnes conditions, vous le savez, de trouver un stage, de trouver du travail, difficulté pour se mouvoir parce que manque de transport, etc., etc. Alors pour en parler aujourd'hui, en plateau, j'accueille Marine Bonnefoy. Bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette émission. On va expliquer dans un instant ce que fait votre association justement pour accompagner les jeunes un peu partout en France. À distance, en distanciel, comme l'on dit, Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France et maire vosgien des Wavres. Merci beaucoup Michel d'être avec nous pour parler de cette jeunesse qui a besoin de ses maires hein, pour les aider. Et puis Jérôme Cosnard, qui est maire de Coutras, c'est dans le nord de la Gironde. On est dans un milieu périurbain. Et merci là aussi d'être avec nous, mon cher Jérôme. Avant d'évoquer la situation de la jeunesse, qui avec la Covid-19 se demande hein, si elle ne va pas être la grande sacrifiée, évidemment, de ces années que nous vivons, c'est parti pour le tour de table de l'actu avec les maires.
Maire de France, bonjour.
Maire de France, bonjour. On est donc ensemble et on va parler avec Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France, de l'actualité. Est-ce que les maires, tout d'abord, ont le spleen ou pas en ce moment ?
C'est à moi que vous vous adressez ?
Ben Michel Fournier, c'est vous.
Ah, ben vous voyez, les maires... Les maires n'ont plus de mémoire, tout simplement, non, le spleen, non, on n'a pas le spleen. Il ne faut pas oublier quand même qu'on sort d'une élection, donc beaucoup de maires ont changé. Il y a presque 40% de maires qui sont de nouveaux maires. Ça veut dire qu'ils avaient le spleen à l'heure actuelle, eh bien dis donc, hein, ils n'ont que 6 ans hein, à faire. Hein. Donc,
oui, d'accord, non. Mais vu la situation, les maires pourraient ne pas avoir le moral aussi, voilà, comme beaucoup de Français. Non.
Oui, les Français ont pour habitude souvent de ne pas avoir le moral et d'être assez, voilà, se contenter souvent de se plaindre que de construire. Et les maires, non, les maires, ils n'ont pas, ils ont le moral et ils savent que la fonction est difficile. Ils l'appréhendent maintenant. Au bout de plusieurs mois, ils ont compris que on leur demandait beaucoup, qu'il fallait qu'ils soient beaucoup présent, de plus en plus présent, et les vidéos, puisqu'on est en vidéo, permettent justement d'être présent d'une façon plus lourde, mais surtout d'augmenter le temps consacré aux échanges qui sont liés à la fonction. Parce qu'il y a l'intercommunalité. Ouais,
je vais poser la même question à Jérôme Cosnard, maire de Coutras, mais avant, je voudrais qu'on écoute un petit extrait d'un spectacle qui s'appelle Mal de mer.
C'est pas la mer à boire, juste les déboires des mers, des hauts, des bas, des histoires qui donnent le mal de mer.
Non seulement quand ton statut piétine,
à jouer courte ligne, préfet s'obstine. Et pour un poil dans un plat de cantine, on sortirait bientôt la guillotine.
C'est pas la mer à boire.
Voilà, alors extrait, hein, chanson du spectacle Mal de mer, un divertissement librement inspiré par le spleen des élus locaux, justement, on en parlait, en forme de contribution au grand débat d'Emmanuel Macron il y a quelques mois, c'était pendant la crise des Gilets jaunes. Jérôme Cosnard, maire de Coutras en Gironde, est-ce que vous avez le spleen ou est-ce que vous sentez que les maires, globalement, peuvent avoir le spleen ou vous êtes plutôt d'accord avec Michel Fournier pour dire « Non mais attendez, on vient d'être réélu et on a plein de choses à faire ».
Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas s'engager dans une telle fonction. On a un devoir d'avoir le moral, surtout dans des moments comme celui-là où effectivement c'est quand même extrêmement compliqué. Je crois qu'on a, enfin, en tout cas… pour ma génération, on n'a jamais connu cette situation-là. On est quand même une génération, il faut dire, dorée, puisqu'on n'a pas connu les deux grandes guerres. Donc, on est dans une situation, et d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut les comparer, on peut comparer les choses. Donc, non, enfin, je veux dire, c'est un devoir, comme je vous l'ai dit, d'avoir le moral. Et puis, pour ma part, en tout cas, moi, c'est le deuxième mandat. Je savais exactement où j'allais avec déjà ce premier mandat. Il n'est pas question, en tout cas, d'avoir et de donner une image d'une équipe municipale ou d'un maire ou d'élus qui serait dans une situation où en réalité, en fait, on serait défaitiste. Non, il n'y a pas à être défaitiste. Il y a une situation compliquée qui doit être gérée. Après, de la façon où elle est malheureusement peut-être gérée, ça, c'est un sujet à discussion, clairement. Mais nous, on est les premiers relais, au fond. On a un État qui et une administration qui, je trouve, très éloignée. On est, je pense, les élus de proximité qui doivent être à l'écoute et qui doivent mettre des politiques en œuvre. D'ailleurs, je pense que pendant cette crise, on a été les premiers au front.
Oui, mais justement, on va parler de ça parce que c'est vraiment important. Jérôme Cosnard, vous avez voulu, puisqu'on parle de cette pandémie, vous l'évoquez, vous avez voulu mettre en place, je crois, dans votre commune, un centre de vaccination. Et finalement, vous avez abandonné. Que s'est-il passé ?
Non, alors, par principe d'abandonner. On n'a pas abandonné, mais en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une communauté d'agglomération qui est de 90 000 habitants. Pour resituer un petit peu Coutras, nous sommes à 35 minutes donc, de l'entrée de Bordeaux, de la métropole bordelaise, et donc à un quart d'heure de Libourne. On est dans la communauté d'agglomération libournaise. Et à Libourne, il y a un centre de vaccination qui a été mis en place avec une capacité d'à peu près 600 vaccinations par jour. Aujourd'hui, on est à 100 vaccinations par jour. Donc, vous avez bien l'esprit était d'en monter un autre sur Coutras, puisque Coutras, c'est à peu près 9 000 habitants, avec un bassin de vie d'à peu près 22 000 habitants. Une singularité, c'est que nous sommes à la frontière de trois autres départements qui sont la Charente, Charente-Maritime et Dordogne, donc nous en Gironde. Et donc là, on avait un bassin de vie à peu près de 30 à 40 000 personnes. Et donc, c'est pas qu'on a abandonné, c'est qu'on n'a pas de vaccin. C'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que malheureusement, on peut pas mettre en place des politiques de vaccination parce que vous n'avez pas suffisamment de vaccins. C'est ça la réalité. Mais
alors, rien pas de vaccin, vous dites, mais non, mais attendez, pas de vaccin, Jérôme Cosnard, ça c'est vrai, malheureusement dans toute la France. Et on voit même d'ailleurs des centres de vaccination qui referment leurs portes. Donc c'est quand même évidemment problématique. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez aussi le sentiment que même s'il y avait eu des vaccins, on vous aurait peut-être mis quelques bâtons dans les roues ?
Non, clairement non. Non, non, enfin, vous savez, non, pas du tout. On est habitué à se débrouiller tout seul. Hein. Je pense que mon collègue pourrait sûrement le dire. On attend, moi, j'attends rien de l'État sur ce sujet. Nous avons, de façon très pragmatique, essayé de voir s'il y avait un intérêt à ouvrir un centre de vaccination sur Coutras. On a donc attendu de savoir si notre population revenait vers nous pour savoir si elle avait une volonté de se vacciner. Ça a été le cas. On a un centre hospitalo-communal, on est en train de travailler pour voir si effectivement on peut être un relais entre deux pour savoir si dans un second temps on ouvrirait un centre de vaccination. Mais non, on n'a pas eu de bâton dans les rues, on n'a pas eu d'aide tout simplement et on n'a pas de vaccin, c'est aussi simple que ça.
Ouais. Michel Fournier, vous qui êtes dans les Vosges et qui êtes aussi ce président hein, des maires ruraux de France, dans les communes rurales, comment ça se passe justement au niveau des centres de vaccination ? Est-ce que vous avez pu en mettre en œuvre facilement ou pas ? Est-ce que vous en avez refermé parce qu'il n'y avait pas assez de vaccins ? Comment ça s'est présenté chez vous ?
Non, d'une façon plus générale, pas seulement chez moi. On a vu la carte de France qui indiquait les centres de vaccination potentiels. Et ce que dit mon collègue est tout à fait exact. Aujourd'hui, il ne faut pas s'affoler, puisqu'on manque de vaccins. L'article premier, on n'a pas de vaccins, ou pas suffisamment. Ce n'est pas la demande qui n'est pas présente, c'est le vaccin qui n'est pas présent. Donc, il est évident que chaque commune rurale ne va pas ouvrir un centre de vaccination, ce serait complètement idiot. Donc, il faut trouver des lieux stratégiques, qu'ils soient plus de 1 ou plus de 2, parce que là, ce n'est pas acceptable, parce qu'il y a des départements, c'est le cas. Hein. Et il y a des distances qui seraient à faire, qui seraient trop importantes, et il faut trouver ces lieux stratégiques que chacun connaît dans son département pour dire, eh bien, il serait nécessaire dans cet endroit d'avoir ce lieu de vaccination. Et là, on trouvera forcément et sans aucun problème un ou plusieurs élus qui se mettront d'accord pour trouver le lieu adéquat avec l'espace suffisant, etc., etc. On se fait aucun souci là-dessus. Simplement, aujourd'hui, ce que l'on aimerait, c'est pouvoir, et bien entendu, comme tout un chacun, et bien que l'approvisionnement existe d'une façon claire et continue, et avoir vraiment une assurance que si quelque chose se met en place, on ne soit pas obligé de fermer cela deux jours après ou d'avoir ces différents problèmes que vous évoquez.
Non, mais est-ce que vous craignez, Michel Fournier, parce qu'il ne faut pas non plus être, comment dire, bisounours, hein, si je puis dire, est-ce que vous craignez que lorsqu'il y aura les vaccins, la ruralité soit peut-être moins bien traitée que le périurbain ou que nos grandes villes ?
La ruralité, sa problématique, ça va être la mobilité. Et cette mobilité, c'est tout. Hein. Donc, cette mobilité, moi d'ailleurs, j'ai un collègue tous les vendredis avec le préfet et les différents autres élus, donc toutes les semaines. Et je crois que c'est comme ça dans tous les départements. Et donc, ce que l'on propose, nous, c'est de dire on peut se mettre au service. Par rapport à nos CCAS, par rapport à tout simplement des gens ou les conseillers peuvent se mettre à disposition de manière à recenser et à organiser le transport si c'est nécessaire. Ça ne posera pas de difficulté si on n'est pas au-delà d'une demi-heure de trajet, parce que convaincre des personnes âgées ou plus âgées que moi, parce que je suis limite, moi.
Oh non, vous êtes très jeune, Michel.
Mais là, je suis limite.
Très jeune, Michel.
Mais bon, c'est comme cela. Hein. Mais toujours est-il qu'on peut, facilement faire en sorte de ce que l'on souhaite simplement, c'est que si on organise ce type de transport, on veut être sûr, premièrement, de ne pas y aller pour rien, deuxièmement, d'avoir des rendez-vous groupés et de pouvoir effectivement dire à nos gens, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, on vous accompagne. C'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle.
Mais il y a un deuxième sujet, Michel, qui est important pour vous par rapport à votre secteur géographique, là en particulier. Vous qui êtes à la montagne, dans les Vosges, pas de remontée mécanique et pas de tourisme pour la montagne cette année pour cause de Covid-19. Comment vous le vivez en quelques mots? Quelles sont les conséquences? Est-ce que le gouvernement a eu raison de fermer ces remontées mécaniques et donc quelque part de mettre aussi à plat quand même une économie de montagne qui est extrêmement importante?
Alors, je vais vous surprendre. Premièrement, je ne suis pas dans la zone montagne, je suis dans une zone intermédiaire, personnellement. Mais je sais ce qui se passe à côté de chez moi, dans cette zone montagne. Et quand on pense les Vosges, classiquement, il y a deux lieux qui apparaissent, qui sont connus, qui sont Gérardmer et la Bresse. Et pourquoi que dans ces deux secteur, eh bien, effectivement, il y a des remontées mécaniques et surtout, il y a de la neige. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu autant de neige. Ouais. Il y a des endroits. Non, mais c'est comme ça, c'est le pied de nez, il y a 1 mètre de neige. Mes enfants vont régulièrement, l'un ou l'autre, ou d'autres amis vont régulièrement dans ces stations pour faire du ski. On fait beaucoup de ski de fond déjà chez nous, hein, dans les Vosges. Et puis de faire de la raquette, etc. On n'a jamais vu autant de monde à Gérardmer et à la Bresse.
C'est-à-dire pas interdit de faire de la raquette, quoi. Donc,
voilà. Mais tu trouves même plus une place pour stationner. Non, mais c'est de la folie, quoi. Ça veut dire que la saison, sans les remontées aujourd'hui, qui sont, si on prend l'exemple des Vosges, hein, la saison sans les remontées, ça sera certainement une des meilleures saisons. Ouais. Sauf pour les remontées et les personnes qui sont liées à ces remontées. Mais vous ne trouvez pas, si vous arrivez après 9 heures du matin, c'est même plus la peine de trouver une location de chaussures, de ski ou de raquettes, il n'y a plus.
Non mais ce qui est absolument extraordinaire dans ce que vous dites quand même, Michel, il ne faut pas amasser les gens sur les pistes de ski où il y a des remontées mécaniques, Par contre, ils peuvent s'amasser sur les chemins de randonnée, enfin de raquettes, quoi, voilà, par exemple. Et là, ça ne pose pas de problème. Donc, pardon, mais moi, ça m'interroge quand même. Hein,
non, voilà. Ils s'amassent au départ, c'est-à-dire au lieu de stationnement, et après, il y a suffisamment d'espace quand même. Non, pour être ben, tranquille par rapport à la
bon,
protection.
Donc, il faut aller chez vous. Si on veut profiter un peu de la neige... Et oublier le ski habituel pour faire de la raquette, il faut venir chez vous tout simplement. Et puis voilà.
Mais il y a le ski de fond. Il y a le ski de fond.
Bon, on va continuer, chers amis, de parler de la crise et de ses conséquences dans les territoires, mais à travers notre jeunesse qui déprime. C'est parti, musique.
La vie dont tout le monde rêve, sous le feu des projecteurs, toujours le sourire aux lèvres.
J'ai 20 ans.
Dans un monde où l'amour crève, je m'accroche à mes valeurs sans jamais demander de trêve.
J'ai toujours 20 ans.
Dans les yeux de ma mère, chacune de ses larmes me pousse à la rendre fière, ma mère.
J'ai 20 ans.
Avoir 20 ans en 2021, en vivant à la campagne ou dans une petite ville en pleine pandémie, est-ce que c'est encore plus galère qu'en temps normal ? Pour en parler, Marine Bonnefoy, directrice adjointe de l'association Chemin d'Avenir, est donc avec nous. Je voudrais d'abord vous présenter deux livres écrits par la directrice de votre association. Il y a tout d'abord les Invisibles de la République. Voilà, comment on sacrifie la jeunesse de la France périphérique, c'est chez Robert Laffont, un livre extrêmement instructif d'ailleurs, puisqu'il permet véritablement d'analyser et de voir comment cette jeunesse vit hein, l'époque actuelle tout simplement. Et puis un deuxième livre, Nos campagnes suspendues, la France périphérique face à la crise, c'est aux éditions à l'Observatoire. C'est Salomé Berliou, donc, qui est directrice de Chemin d'Avenir, qui a écrit ces deux livres, des livres dont les titres en disent long sur la situation des jeunes dans nos territoires. Salomé a donc écrit ces livres. Pourtant, elle dit quelque chose de très intéressant d'ailleurs. Elle dit pourtant nombreuses, 23% des moins de 20 ans vivent en milieu rural, 23%, c'est pas négligeable. La jeunesse des ruralités ne fait pas masse. Et c'est certainement ce paradoxe qui lui vaut d'avoir été oublié par un État longtemps resté aveugle et sourd à ses besoins. Bref, cette jeunesse ne crie pas assez fort, ne manifeste pas, ne brûle pas de voiture, on ne l'entend pas. C'est ça que ça signifie en creux, j'imagine, Marine.
Tout à fait. Et pour peut-être resituer le contexte de l'association à vos auditeurs, donc nous, la mission de Chemin d'Avenir, c'est vraiment de permettre aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants qui grandissent dans ces zones rurales, dans ces petites villes, d'avoir vraiment autant de chances de réaliser leur potentiel que les jeunes qui grandissent dans les grandes métropoles. Mmh. Et ça part vraiment d'un triple constat. À la fois, le premier constat, c'est le cumul des obstacles que rencontrent ces jeunes-là. Ces obstacles, c'est un manque d'informations sur les filières, sur les métiers qui existent, un manque d'opportunités culturelles, académiques, professionnelles au sein de leur territoire, des enjeux évidemment de manque de rôle modèle, mais aussi beaucoup de mécanismes d'autocensure, ces jeunes qui se disent « c'est pas fait pour moi, telle voie, je peux pas y prétendre parce que je viens de la campagne ». On va avoir évidemment, et ça les maires présents le connaissent très bien, des enjeux de mobilité, qui sont souvent même de l'assignation à résidence pour ces jeunes-là, des enjeux évidemment de fracture digitale, on l'a vu beaucoup pendant la crise.
Oui, avec les zones blanches où Internet ne passe toujours pas.
C'est ça. Et à ces obstacles-là s'ajoutent aussi les fragilités économiques des familles. Donc tous ces obstacles limitent vraiment les horizons de ces jeunes.
Tiens, Marine Bonnefoy, parce que c'est intéressant ce que vous dites, mais si on revient à l'actualité, on a beaucoup entendu dire les gens hein, pendant les confinements, et puis même des politiques dans les médias dire le confinement à la campagne, c'est super, on respire. Vous répondez quoi à ça, vous ?
Que ça, c'est quand même une image qui n'est pas si représentative que ça de ce que vivent vraiment les jeunes dans ces territoires. Je veux dire, tout le monde n'a pas une grande maison avec un grand jardin, la possibilité d'aller dans les champs, d'aller se balader. Enfin, ils étaient tout autant confinés que les autres. Et les difficultés étaient là déjà avant la crise et ont été exacerbées par la crise sanitaire. Mais cette image d'Épinal, effectivement, n'est pas tout à fait vraie.
Comment vous les accompagnez, ces jeunes, dans le milieu rural ? pour les aider, pour les faire sortir de cette assignation à résidence, comme vous dites?
Alors, on a trois leviers d'accompagnement. Donc, un jeune qui devient filleul de l'association, il va d'abord avoir un parrain ou une marraine individuel qui va l'accompagner pendant 18 mois. Donc typiquement, un jeune qui étudie dans les Vosges, à Mirecourt, qui rêve de devenir avocat, va avoir un parrain ou une marraine qui sera étudiant en droit, qui sera avocat, qui sera magistrate, qui va pendant 18 mois l'accompagner sur la base d'une méthodologie qu'on a conçue avec l'association pour lui permettre de construire progressivement son parcours académique, pré-professionnel et citoyen. Ensuite, il va avoir accès à des formations thématiques sur des compétences transversales comme la prise de parole en public, l'usage du numérique ou encore la rédaction d'outils de candidature. Mmh. Et puis enfin, on va lui amener des opportunités supplémentaires. Ça peut être des opportunités de stage professionnel partout en France, au sein de son territoire, mais aussi ailleurs, avec des systèmes de bourse à la mobilité. Des opportunités aussi de visites culturelles, de visites d'entreprises, de rencontres avec des professionnels, avec des étudiants. L'idée, c'est vraiment de jouer sur tous les freins que rencontrent ces jeunes-là. Et ça, on le fait main dans la main avec l'éducation nationale, avec les collectivités, avec les élus, avec les entreprises, les fondations, avec la société civile. L'idée, c'est vraiment de créer des ponts entre tous ces acteurs au profit de ces jeunes.
Et ben voilà une initiative, en tout cas, qui est extrêmement positive. Et c'est vrai qu'on peut la saluer. Ils sont dans quel état d'esprit, les jeunes ruraux, en ce moment, j'ai envie de dire depuis un an, puisque malheureusement, hein, on commémore ou en fait, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, un an de crise Covid.
Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est une situation qui est extrêmement compliquée pour tous les jeunes Français, mais qui l'est encore plus et qui est parfois dramatique pour ces jeunes-là, pour au moins sur deux plans, sur l'histoire de la continuité pédagogique et sur l'orientation. Et ça, je peux détailler un peu la continuité pédagogique. On avait quand même des jeunes qui ne pouvaient pas du tout se connecter à Internet, ne pas du tout suivre leurs cours. Certains qui devaient partager un ordinateur ou une tablette avec 1, 2, 3, 5 membres de leur famille et donc qui vraiment étaient très éloignés et avaient aucun moyen de suivre leurs cours. Sur l'orientation, là aussi des situations dramatiques. On a des jeunes qui nous disaient « Moi, je comptais sur le job que j'allais faire pendant les vacances pour financer une partie de mes études après le baccalauréat » ou « Je comptais sur le stage que j'avais réussi à obtenir, sur l'apprentissage que j'avais réussi à obtenir » et ces jeunes-là n'ont pas pu le faire et aujourd'hui, à la rentrée en septembre, se retrouvent sans rien. Donc ça, c'est quand même vraiment dramatique.
Génération sacrifiée ?
Alors, en tout cas, une génération qui se voit être un peu mise de côté. Et ça, c'est très important, je trouve, de le rappeler. C'est des difficultés qui viennent s'ajouter à un contexte qui est déjà défavorable en termes d'égalité des chances pour ces jeunes dans ces territoires.
Alors, je voulais vous donner quand même 2-3 infos, parce que c'est vrai que le débat autour des jeunes ces derniers jours est important. D'abord, on apprend que 30% des jeunes dépriment. Alors, le gouvernement propose un chèque pour aller voir un psy, voilà, bon, très bien, mais ça en dit long quand même sur la situation. On nous dit que 450 000 ont perdu leur job, les jobs étudiants, hein, notamment dans les cafés, les restaurants, le soir, après les études. Donc là, le gouvernement propose 2 repas par jour à 1 euro pour s'en sortir. Autre idée qui vient de Stanislas Guérini de La République En Marche, un prêt jeune qui serait remboursable sur une trentaine d'années. En quelques mots, comment vous accueillez ces propositions et ces aides gouvernementales, le cas échéant ?
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut mettre des moyens pour aider ces jeunes. Nous, on essaie aussi à notre petit niveau. On met en place, par exemple, pendant les confinements, on a mis en place des permanences téléphoniques de l'association pour que les jeunes puissent nous appeler, nous parler de leurs doutes, de leurs questions, de leurs doutes aussi sur leur orientation, surtout. Je pense que surtout, il faut coordonner toutes ces réponses et les personnaliser aussi pour les jeunes ruraux.
Jérôme Cosnard, maire de Coutras, en Gironde, 9000 habitants, on le rappelle, au nord de la Gironde. Ils vont comment, les jeunes, chez vous, dans ce milieu périurbain ?
Je pense que, évidemment, comme tous les jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation compliquée, mais... Alors... comment ils vont avant, pendant cette crise sanitaire ?
Un an après la crise, ils sont dans quel état ?
Ils sont comme la majorité des Français, je pense qu'ils sont usés de cette situation. Alors évidemment pour eux, il y a une singularité, c'est qu'ils ont 20 ans ou ils sont jeunes dans une période que je trouve très inhumaine, avec des mesures qui sont prises, dont moi-même je ne compare pas vraiment, quand on doit se comparer à certains autres pays qui, je crois, ont pris d'autres mesures pas aussi difficiles que celles qu'on a prises en France. Donc, ces jeunes, je pense que pour la plupart, vous l'avez dit, les chiffres sont éloquents, hein. Qu'on soit en milieu urbain ou qu'on soit en milieu rural, je crois que, à mon avis, les chiffres doivent être les mêmes. Vous avez plus de 30% de nos jeunes qui sont aujourd'hui dans une situation d'état psychologique très compliquée. On voit, et on a pu voir dernièrement encore, des jeunes même qui ont mis fin à leur vie parce qu'ils étaient dans une situation où ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Donc, dans nos milieux communes, périurbaines, je crois qu'on est, comme partout en France, je crois que nos jeunes souffrent de cette situation.
Et qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que maire de Coutras ? Qu'est-ce que vous faites de concret pour aider vos jeunes au quotidien ?
Ben en fait, pour aider nos jeunes au quotidien, on essaye d'éviter en fait cette difficulté de rupture d'égalité, c'est-à-dire qu'on a déployé la fibre dans toute la commune, puisque les plus grosses difficultés qu'on peut avoir, c'est les problèmes de mobilité, mais aussi des problèmes de connexion d'Internet. Là, en l'occurrence, il s'avère que pour ces jeunes qui sont obligés de rester chez eux pour avoir des cours en distanciel, ceux qui ont pu avoir et ceux qui ont une bonne alimentation Internet, c'est sûr que pour eux, en tout cas, ils peuvent au minimum suivre leurs cours. Donc, l'objectif pour nous, évidemment, alors, heureusement, c'était des politiques qui avaient été menées bien avant. On a quasiment la totalité de la commune qui est reliée à la fibre Internet. On essaye aussi pour ceux qui sont et qui ont été les plus impactés de trouver des solutions, puisqu'on a mis en place, il faut savoir que la commune de Coutras, mais ça, évidemment, c'est une politique globale, hein. La commune de Coutras fait partie d'un quartier prioritaire. Donc, on a développé des écoles de la seconde chance pour nos jeunes qui sont le plus en difficulté, hein, ce qu'on appelle les décrocheurs scolaires. Pour ce qui est des problématiques de difficulté de mobilité, alors nous, on a un impact qui est relatif, puisqu'on a la chance d'avoir une gare où, en fait, on a une ligne qui est Bordeaux-Paris. Donc, on est à 35 minutes de Bordeaux et à 15 minutes de Libourne. On a aussi la chance d'avoir un transport de bus qui nous permet de pouvoir circuler partout dans l'agglomération. Donc, sur la mobilité, si vous voulez, on est que moyennement touché.
Alors, je voyais que vous prenez beaucoup d'initiatives, vous, hein, pour les jeunes d'une manière globale et bien au-delà de cette situation quand même. Il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention parce que je voulais la saluer parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Auto-école solidaire, en partenariat avec le CCAS de Coutras, les missions locales, etc., services d'éducation, services politiques de la ville. Vous voulez développer un projet rendant accessible l'apprentissage du code de la route et du permis de conduire à des personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est quoi l'idée ? C'est aider pour obtenir son permis, pour le payer. On sait que c'est très cher, le permis de conduire, oui. Hein, en règle générale. Et avec une contrepartie, dites-nous en quelques mots.
Oui, c'est, en fait, le permis, on sait tous que c'est un frein à la fois pour ceux qui souhaitent aller faire des études, mais aussi pour aller travailler. On a besoin de notre voiture. Et donc, souvent, quand on est jeune, une des plus grandes difficultés qu'on peut avoir, c'est le financement donc, de son permis de conduire. Donc, l'esprit, ça a été en contrepartie, en fait, de services qui peuvent être rendus à la commune et à la collectivité sur des politiques qui tournent autour de l'environnement. En fait, il y a un financement d'une partie, voire de la totalité, du permis pour ces jeunes. Voilà, donc c'est par des aides. Comme
et quoi celle-là. Et en contrepartie, ils vont aider.
En contrepartie de l'offre qu'ils sont donnés à la collectivité et voilà. qui sont en faveur de l'environnement. Donc ça peut être des journées qui sont organisées pour aller sensibiliser les habitants sur la propreté, sur l'environnement. Ça peut être tout un tas de politiques qui sont menées et qui concerne l'environnement dans le sens global.
On peut pas dire toutes les actions que vous mettez en place parce que malheureusement, on manque de temps. Il nous reste
ça va être
5 minutes. Hein, mais je voulais juste dire un mot par rapport à un projet que vous avez, alors qui est devant la justice aujourd'hui, puisque vous voulez mettre en place un village des marques à Coutras. Oui. Vous savez, ces villages qui accueillent de nombreux magasins qui vendent en fait tous les invendus des marques. Voilà, il y en a plusieurs en France. Moi, je voulais juste vous dire que je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée aujourd'hui. C'était peut-être une bonne idée il y a 2 ans, par exemple, mais je crois qu'aujourd'hui, la situation a tellement changé, justement, avec ce Covid, parce qu'on voit bien, on achète sur Internet, etc. Et même si ça crée de l'emploi, peut-être, ça en détruit sans doute aussi, d'ailleurs, mais je ne suis pas certain que ce soit encore à la mode. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte, vous ?
Eh bien, écoutez, Christophe, je crois que c'est totalement l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, sur cette crise sanitaire, il va bien falloir à un moment donné compter la situation. À mon avis, on nous parlait de 5 milliards tous les mois de coûts de cette crise sanitaire. Si on devait reconfiner, on est autour des 15 milliards. Donc, des chiffres qui font vraiment peur. Non, je crois qu'au contraire, le village des marques, d'ailleurs, pour les derniers qui ont été construits, Miramas et Honfleur, on voit des chiffres qui ont été pendant la période de cette crise sanitaire tout à fait satisfaisants, voire même très satisfaisants, puisque les gens donc y ont été consommés. Et je crois qu'aussi, le village des marques, puisque c'est là où je comprends pas, c'est un peu paradoxal ce que vous êtes en train de dire, puisque vous êtes en train de m'expliquer qu'en fait, ces projets aujourd'hui sont plus adaptés. Mais au contraire, puisque on est en train de nous dire au quotidien qu'en fait, la part de la vente sur Internet aujourd'hui est exponentielle. C'est-à-dire qu'on crée de l'emploi, d'ailleurs, on sait pas trop où. Et là, ce projet et ces projets qui sont des projets de village des marques, c'est remettre du commerce physique avec de la création d'emplois sur des territoires. Alors même que quand on achète en ligne, on ne sait pas vraiment où sont créés ces emplois.
Je disais ça parce que les habitudes des Français, on le voit bien, ont changé ces derniers mois. Et donc, peut-être une crainte que, effectivement, aller chez son boucher ou aller chez son boulanger au centre-ville de Coutras, par exemple, et le faire vivre, ça, oui, il faut y aller, c'est formidable, c'est extraordinaire, il faut vraiment que ça reparte, on est tous d'accord. Après, des grands ensembles comme ça, est-ce que véritablement les gens vont vouloir y retourner en masse ? C'est toute la question. Peut-être
et que bien, oui, la première. Moi, j'invite vraiment, pour parler de ce sujet, je l'ai déjà dit, parce que je le redis, pour parler de ces sujets, j'invite les gens à aller voir. Parce qu'il n'y a pas mieux que du coup d'aller voir comment ça fonctionne. Pendant cette crise sanitaire, les villages des marques ont non seulement extrêmement bien fonctionné, mais ils ont même explosé en termes de chiffres. Donc, c'est la preuve même que du coup, les gens ont une demande. Mais si on n'investit pas sur du commerce physique comme celui-là, si on ne crée pas, comme vous le dites, des grands ensembles, en fait, vous allez faire la part belle donc à la vente en ligne. Donc, encore un peu plus, on va encore un petit peu plus déshumaniser l'activité du commerce.
Honnêtement, si jamais ça voit le jour et si ça crée de l'emploi, notamment chez les jeunes, dont on parle…
700 emplois directs. Je crois que mon collègue pourrait vous en parler, une des plus grandes ruptures de l'égalité, c'est le problème du développement économique. On a été pendant, et je me dis que peut-être que vous avez raison sur certains points, peut-être que cette crise sanitaire va réellement refaire découvrir nos territoires. Il a été in pendant 20 ans d'être dans des métropoles où on a eu une concurrence presque déloyale par rapport à nos territoires. Dans les années 70 et 80, on a connu des industrialisations. Il a fallu absolument capter les métropoles. Il n'y avait que les métropoles. Aujourd'hui, je peux l'espérer que peut-être on va revenir à des choses un peu plus saines où on va se dire que tiens, on a quand même peut-être des communes, des villes périurbaines, on peut y vivre. Mais pour y vivre, il faut aussi pouvoir y travailler. Et pour y travailler, il faut développer, il faut nous aider à avoir des emplois. Et quand vous avez des investisseurs qui, pas parce qu'ils ont envie de vous faire plaisir, parce qu'ils considèrent qu'en fait, on est sur un territoire qui est porteur et qui est prêt à mettre 80 millions d'euros et créer 700 emplois sur un territoire qui aujourd'hui, sur le nôtre, a 15% de chômage, mais on est fou. On est complètement fou de passer à côté. Ouais.
Non, mais vu sous cet angle, évidemment, on comprend bien que vous défendiez ce que vous étiez en train de parler. On a bien compris.
À Coutras, ce qu'on fait, on ne fait pas que de l'accompagnement, on ne fait surtout pas d'assistanat, mais ce qu'on veut surtout faire, c'est développer pour que les jeunes puissent y rester. Parce que si on n'a pas des jeunes dans nos territoires qui peuvent se projeter, rester, vivre, et avoir de l'emploi, évidemment, ce sont des territoires qui vont s'appauvrir petit à petit. Donc, notre combat et mon combat, c'est d'en faire des territoires où le développement économique est possible. Et pour ça, il est clair que quand on a des investisseurs qui sont prêts à injecter plus de 80 millions d'euros dans un projet, eh bien, on l'accueille plutôt, plutôt favorablement.
Allez, on va donner la parole à Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France, avec qui on va terminer d'ailleurs cette émission aujourd'hui. Michel, que font les maires ruraux pour leur jeunesse, et en particulier, j'ai envie de dire, depuis cette première année de crise sanitaire? Est-ce que vous avez quelques exemples concrets?
Non, attendez, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été dites là, sur lesquelles on doit pouvoir revenir. Alors, on n'est pas là
pour faire... Allez-y rapidement. Alors, il nous reste 4 minutes, Michel.
Ben oui, mais voilà, hein, si allez-y, vous donnez la parole 4 minutes, on peut même la couper, ce n'est pas un problème. Hein. Moi, je voudrais quand même dire une chose, quand même. Premièrement, il y a un peu plus de 30% de jeunes qui sont dans le milieu. Voilà, c'est pas... Pourquoi ? Parce qu'on est sous des chiffres un peu différents, c'est-à-dire sur les moins de 3500 habitants qui sont les communes rurales. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Ensuite, ce qui a été souligné, vous vous rendez compte, ce que souligne le maire, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des problèmes de mobilité, mais en même temps, il dit qu'il est à 15 minutes de Libourne et une demi-heure de Bordeaux. C'est encore plus difficile pour nous, ces problèmes de mobilité. Ces problèmes d'Internet, ils sont encore beaucoup plus importants. Ces problèmes d'économie locale, et c'est encore beaucoup plus important. Donc, si on part de là, ben, il y a deux solutions, hein, ou vous suicidez directement, ou vous pleurez et puis vous restez là. Non, les jeunes dans nos territoires ruraux, ils ont, c'est peut-être malheureux de dire cela, mais c'est une réalité. À mon sens, ils peuvent être plus forts dans la mesure où ils sont habitués dès le départ à connaître ces difficultés que vous avez tous, l'un et l'autre, évoquées, que je partage. J'ai compris ce qu'a dit la présidente. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le confinement n'a pas apporté un inconvénient supplémentaire. Et il est difficile, mais les jeunes, chez nous, ils ont l'habitude de se rencontrer sur des micro-noyaux locaux. Et ça, ils continuent à pouvoir le faire malgré le confinement, parce que il y a un peu plus de d'échappement qui est plus facile à faire dans le milieu rural. Et donc, qu'est-ce que l'on fait nous? Eh bien, tout simplement, on essaie d'être le maximum à l'écoute dans les territoires ruraux de ces besoins. Mais on n'a pas tellement d'éléments pour pouvoir faire changer les choses. Bien sûr, on pratique des aides au permis de conduire dans certains endroits avec des services de ce type-là, avec des échanges. Faut toujours J'ai bien aimé la notion de ne pas assister à ça. Ça veut dire qu'il faut toujours la notion d'échange. Il faut effectivement que le jeune il se dise « Ok, on me permet cela, mais en contrepartie, je vais donner cela à la société. » Ça, c'est très important. Et puis, je voudrais ajouter une chose, parce que, excusez-moi, mais j'étais commerçant toute ma vie. Donc, petit commerce. Et je veux dire, si par rapport à ce que vous êtes étendu là, eh bien… Il faut aussi se faire une réalité. Le confinement est un accélérateur de la fin du petit commerce dans le milieu rural ou petites agglomérations. Ça, c'est clair.
Parce que vous avez des magasins qui ferment, vous constatez des magasins qui ferment et qui n'ouvriront pas.
Mais bien sûr, et la situation était déjà difficile avant. Donc, je dis encore une fois, c'est souvent un accélérateur. Et il faudra effectivement repenser. Alors, que la solution soit des grandes structures ou de la grande distribution, ça c'est une autre question, mais il faudra repenser le commerce en milieu rural si on veut qu'il y ait au moins cette activité-là. Ça c'est clair.
Est-ce que vous ressentez quelque chose qui quand même a pris de l'ampleur, hein, Michel Fournier, dans le milieu rural notamment, ce qu'on pourrait appeler le localisme, c'est-à-dire on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui sont très heureux de pouvoir consommer à côté de chez eux avec le paysan du coin qui fait de la bonne viande, qui fait des bons légumes, etc. Est-ce que ça, c'est une réalité que vous ressentez?
C'est en plein essor.
C'est génial, c'est génial quand même.
C'est génial, oui, mais ça veut dire qu'on revient un peu aux fondamentaux. Et voilà, parce que la vie, c'est souvent cela, hein, c'est une courbe. Hein. Ça fonctionne comme ça. Et donc aujourd'hui, on se dit, bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Finalement, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir cette qualité-là proche. Et puis, il y a la notion aussi de prise de conscience de se dire, est-ce que l'on veut être aussi, nous, consommateurs, quelqu'un de plus responsable, en ne recherchant pas systématiquement la notion de prix, mais en recherchant aussi, l'irrigation d'une activité sur l'ensemble du territoire. Et peut-être que les gens deviendront plus citoyens que consommateurs.
Michel Fournier, tiens, pour terminer, si vous aviez Emmanuel Macron face à vous, les yeux dans les yeux, en tant que président des maires ruraux et vous-même maire rural, donc, dans les Vosges, vous lui diriez quoi, vous lui demanderiez quoi par rapport à la situation et à tout ce que ça a changé?
Alors, premièrement, je l'ai déjà eu les yeux dans les yeux, comme vous dites.
Oui, et, j'imagine.
Oui, je sais aussi, et mon collègue maire le sait aussi, si on était dans cette situation à vouloir régler un problème qui est celui que l'on vit aujourd'hui, qui est quelque chose que on ne mesure pas et que l'on ne mesurait pas, et que l'on a, encore une fois, qu'il y aura encore d'autres effets que l'on ne peut pas mesurer à l'heure actuelle, je crois qu'il faut quand même avoir une certaine modestie, parce que nous-mêmes, à notre petit niveau, dans nos communes, même si la tienne est plus importante, cher collègue, eh bien, tu sais que tu peux pas avoir tu peux pas avoir la réponse à tout. Et, parce que les gens sont comme cela aussi, les administrés sont demandeurs. Et on est aujourd'hui dans une situation où je trouve que j'ai 5-6 mandats, moi, derrière moi. Je trouve que les gens sont de plus en plus demandeurs, de plus en moins en moins autonomes, de plus en plus, moins responsables. Et nous, on a un devoir de pédagogie de leur réapprendre une culture simple, de dire, attends, commence peut-être toi par faire ceci, cela, et puis peut-être que... Et ce qu'on peut demander à un gouvernement et à un premier ministre et surtout à un président de la République, c'est d'avoir conscience de certaines réalités. Ce n'est pas toujours le cas. C'est d'avoir conscience qu'il y a des gens qui peuvent vivre différemment avec des difficultés premières qui ne sont même pas envisageables quand on est dans une forme de bulle, parce que malgré tout, il y a cette bulle, et la bulle, elle est souvent parisienne. Eh bien, tout simplement, à un moment donné, c'est par des petites avancées simples qu'on peut arriver à faire en sorte que la situation se débloque et que les gens retrouvent une envie, mais une envie, et qu'on leur propose cette envie. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette directive-là.
Ouais. Merci beaucoup Michel Fournier, c'est intéressant ce que vous venez de dire, et puis c'est vrai qu'on peut le rappeler aussi, il y a beaucoup de maires qui malheureusement aujourd'hui sont agressés quotidiennement, et je voudrais leur rendre hommage à travers cette émission d'ailleurs, parce que ça reste quand même, vous restez quand même les élus préférés des Français, et ça c'est quand même important de le dire. Beaucoup d'entre vous êtes dans des communes où vous n'êtes pratiquement pas, si je puis dire, payés, hein. Enfin en tout cas vous êtes beaucoup à ne pas être riche pour le temps passé, parce que c'est vrai que le temps passé est énorme souvent, et puis on vous appelle à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc on salue évidemment tous les maires de France qui travaillent d'arrache-pied pour leur population. Merci à tous, merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Maires de France. Bonjour sur Radio Territoria et à bientôt.
Maire de France, bonjour. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.